Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Startup Mafia. Je suis Kamel Zeroual, investisseur dans la tech et entrepreneur depuis toujours. Startup Mafia, c'est un format long. Une saison est consacrée à une scale-up et un épisode est consacré à un talent. L'objectif, comprendre l'envers du décor avec un prisme talent, car c'est eux qui contribuent, avec les fondateurs, à faire grandir le business de manière si rapide. Excellente écoute à tous. C'est parti Mathieu, on va passer une heure ensemble à discuter design, branding, bien sûr de Brigade et de ton rôle. Peut-être pour que tout le monde sache qui tu es, est-ce que tu peux donner un peu ton état civil et bien surtout ton rôle aujourd'hui chez Brigade.
Yes, carrément. Donc moi c'est Mathieu Rodeau, j'ai 34 ans déjà et j'habite à Vincennes. Moi, j'ai rejoint Brigade en mars 2017, très précisément. D'abord en freelance, d'ailleurs, c'est un monsieur qui peut durer un mois. Et du coup, ça fait 6 ans que j'y suis.
Normal. Yes. Est-ce que ça a été requalifié par l'URSSAF? Je ne sais pas.
Justement, ça fait mal. Et très un peu au bout d'un mois, j'ai senti que j'allais rester, j'allais attendre un peu, quoi. Mais du coup, Flo m'a proposé un CDI dans la cuisine à l'époque, vu que c'était un appartement. Bref, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Donc, je suis arrivé d'abord en tant que product designer, puis head of product design. Et là, depuis 2 ans, donc, je suis VP brand. Donc concrètement, en fait, moi je m'assure comment je vais définir vraiment comme comment est-ce qu'on on s'assure qu'à chaque point de contact avec Brigade, on a l'expérience la plus cohérente et la plus qualitative possible, à la fois sur l'aspect éditorial et sur l'aspect graphique. Donc qu'est-ce que ça veut dire encore plus concrètement? C'est sur l'aspect éditorial, c'est s'assurer que au sein de mon équipe, quand j'ai une équipe communication et une équipe création de contenu. Donc, communication, c'est les réseaux sociaux, la communication online, offline, en France et au UK, vu qu'on est aussi au UK. Et une partie création de contenu, donc c'est écrire des articles, faire des posts, faire du motion design, faire du brand design, faire créer des vidéos, des photos, des illustrations. Donc, ça, c'est un peu les deux pôles de mon équipe. Actuellement, c'est sept personnes. Et donc, pour reboucler, je fais une digression du coup, mais... donc il y a l'aspect éditorial, ça va être vraiment tout ce qu'on dit, les éléments de vocabulaire, le fait de dire mission, le fait de dire talent et pas d'autres termes qui induisent des confusions, tous nos éléments de langage, tous nos arguments, les arguments forts sur lesquels on se positionne et qu'on répète à travers toutes les équipes. Donc ça c'est l'aspect éditorial quand je suis garant. Il y a l'aspect plus graphique. Donc c'est être reconnaissable visuellement, les cohérents, quel que soit le support visuel. Donc ça peut, c'est sur les réseaux sociaux, les communications, les documents offline, online, les stands dans les salons. Et ça boucle un peu vu que là, je l'ai dit, j'étais head of product design et product design en fait à la base. Je touche aussi notamment au design system. En fait, j'ai moi-même mis en place, pas tout seul, c'était Kickstarter avec d'autres équipes. Donc voilà. Donc ça brosse assez large.
C'est beaucoup de sujets. En plus, je crois de mémoire, Flo est particulièrement sensible à tous ces sujets de design.
Ouais.
Et donc, régulièrement, à l'époque, lorsque j'étais au board, c'était vraiment un sujet qui portait haut et fort. Où il lâchait rien du tout et dans lequel il disait oui on va faire cette upgrade, on va changer, ça faisait partie des priorités qu'il avait, notamment finalement post premier confinement. Il y a eu tout un travail de fond qui a été fait.
Ouais.
On va revenir en arrière peut-être juste pour comprendre un peu où est-ce que t'en es arrivé, comment t'es arrivé finalement sur ce sujet de design au sens large. Toi où est-ce que t'as grandi, c'est quoi ton setup au départ familial?
Moi, j'ai une famille plutôt scientifique. Ma mère est médecin et mon père est ingénieur dans le nucléaire.
Ok. Donc tout pour faire du design.
Tout pour faire du design. J'ai un grand frère qui a fait exactement la même formation que mon père dans la même école et qui est un jeune et brillant. Private equity.
Ok, ça arrive à des gens bien, je te rassure.
C'est pas des gens bien. Sinon, j'ai grandi en banlieue parisienne, dans le 91, aux Ulis, plus précisément. Le design, comment je suis un peu arrivé. Enfin, j'ai eu une formation, j'étais école de commerce, malheureusement, c'est un peu cliché désormais. Mais en fait, c'est là-bas que j'ai trouvé ma vocation, mais pas pendant les cours. C'était une association étudiante. En fait, je me suis retrouvé un jour à faire, à bosser sur l'affiche d'une soirée étudiante, quoi.
Ouais.
Et j'ai trouvé ça curieusement attrayant. J'ai tout de suite fait des tutos, j'étais sur Photoshop et tout.
Et avant ça, tu dessinais ou tu avais une certaine sensibilité ou pas du tout?
En fait, c'est marrant parce qu'ensuite j'ai relié les points. C'est que effectivement, je m'amusais à faire des, enfin, j'ai jamais pris de cours de dessin, mais j'aimais bien dessiner comme ça de manière ponctuelle, mais sans être, je sais pas, j'ai bien aimé faire de temps en temps. Et je me suis même rappelé qu'avant ça, j'avais fait c'était pas un site web, mais c'était un document Word. Donc, en fait, j'avais fait un site web sur un document Word sur les cartes Magic.
Ouais, super.
Ça existe encore.
Oui, ouais, bien sûr. En live maintenant.
Et parce que j'avais découvert la notion d'hyperlien, en fait, sur les documents Word. Et donc, en fait, genre, je sais pas, ça va retourner. J'ai fait une page web sur un document Word avec que des hyperliens un peu partout. C'est génial de mettre des hyperliens. Mais j'avais déjà, ça fait beaucoup d'importance à ce que la page soit belle.
La forme.
À la forme, ouais. Et je pense que c'est ce qui est un peu relié. Ça, c'est ensuite en assaut. J'ai voulu faire des affiches et des visuels qui soient beaux. Et puis, en fait, j'ai parlé de mes stages, etc. Je me suis créé un statut auto-entrepreneur pour faire des visuels comme ça, qui a glissé vers du web design, qui a glissé ensuite vers de l'app design. Il faudrait prendre un autre terme.
Ouais.
Et j'ai monté ma boîte pendant 2 ans. Où, en fait, en plus de monter ma boîte, c'était une application mobile de géolocalisation des amis. Je m'occupais vraiment du product design. Moi, je faisais le product design sur un Photoshop, comme ça a été le cas dans pas mal de product design pour commencer. Et c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier. Ça m'a vraiment, c'est les virus, quoi, en fait, du product design. J'ai tiré le fil jusqu'à aujourd'hui.
Et finalement, ta formation plutôt classique d'école de commerce, est-ce qu'elle t'a aidé à structurer ta pensée? Enfin, tu vois, je sais pas, est-ce que le fait d'être finalement très cartésien, ça aide à être un bon designer ou pas du tout? Ou sur la partie business, est-ce que le fait de finalement bien comprendre les intentions business par rapport à des enjeux plutôt marketing, de persona, est-ce que ça t'a aidé? Ou finalement, c'est plutôt la partie rendue sur laquelle t'étais sensible et voilà, c'est ça qui t'a drivé?
L'école, je sais pas, je regarde pas grand chose. Après, je pense consciemment, je sais pas trop ce que je regarde. Ça m'a forcément, évidemment, appris des trucs, à structurer les choses, ces expériences pro. Parce que j'ai des expériences en publicité.
D'accord.
Côté annonceur et côté agence.
D'accord.
Surtout côté agence, ça m'a appris pas mal de trucs. Parce que
mais côté agence, t'as tout de suite été sur la partie créative ou t'as été sur la partie commerciale?
Non, partie commerciale.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Et justement, en fait, les deux étaient en parallèle. Je faisais en auto-entrepreneur du web design et en stage, j'étais sur une partie commerciale, en fait.
D'accord.
Donc, et en auto-entrepreneur, en fait, j'en ai un peu d'autres clients où, en fait, l'un nourrissait l'autre parce que ensuite, en agence, je parlais des créatifs. Donc en fait j'avais quelques notions de leur complexité technique qui me dire pas forcément et donc il y avait des synergies qui se créaient mais j'étais côté commercial, je pense que ça a aidé effectivement. C'est un client qui arrive, en fait c'était avec McDonald's France, donc c'était directement le DG France avec son bras droit qui était assez exigeant. Je crois qu'il avait été le meilleur manager McDo du monde. Je sais pas quand ça existe apparemment, mais du coup assez exigeant. Ils arrivaient vraiment avec des besoins business, quoi. Et en face, c'est vrai qu'on avait des créatifs, quoi.
Ouais.
Et donc, fallait les dire, comment est-ce que la créativité rejoint le but business? Et je pense, ouais, ça a formé quelque chose. C'est tout de suite en product design, j'ai fait des produits, c'est le cœur d'un sujet, quoi. À chaque fois, t'as vraiment la contrainte technique. Le besoin utilisateur et la contrainte business, quoi. Produit à l'intersection des trois. Et quand t'es designer, bon, traditionnellement, tu dois représenter les intérêts de l'utilisateur, prendre en compte les contraintes techniques. Mais c'est bien si t'as aussi les contraintes business en tête, quoi. Ça te permet quand même de dire à la fin, faut quand même qu'il y a retour sur investissement. Ça, je pense, ouais, ça m'a éduqué à pas seulement être dans l'aspect visuel qui me plaît beaucoup et qu'on a arrêté là, mais genre et je pense aussi ça c'est un peu être calme. Moi, je me suis aperçu qu'en fait, faire les heures, j'ai vraiment un cerveau qui fonctionne visuellement, quoi. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'en fait, je fais beaucoup de slides, en fait, quand on parle d'un problème utilisateur, en fait, il y a tout de suite une solution visuelle qui émerge. Et c'est pour ça que, mais je suis pas très bon dans l'abstraction. Par exemple, enfin, je sais pas, les maths, etc. Enfin, je suis pas mauvais en maths, mais je vois qu'au bout d'un moment, quand c'est trop abstrait, en fait, j'arrive plus du tout
à visualiser.
À visualiser, littéralement, quoi. Donc voilà, je pense que c'est là où tout se relie, en fait.
D'accord, très clair. Et post école de commerce, donc tu te mets à ton compte en mode freelance. Tu as parlé d'une boîte produit, donc tu as lancé un produit en mode startup. Ou c'était quoi l'objet de cette.
Ouais, c'était ça. Alors j'ai fait mes stages.
C'est quelle année ça? Voilà, donc les stages, t'as fait un peu de Publicis, enfin école de, enfin plutôt.
Télé BVA.
Ouais, ça arrive, mais c'est ça.
Enfin non, justement. chez mes stages, j'ai aussi fait du marketing digital pendant 6 mois en Australie. Donc là, pareil, en fait, bon, on t'en reparle ensuite. J'étais encore pas lancé dans l'aspect. À l'époque, en fait, c'était graphiste, en fait, également, quoi. Donc, je me voyais pas trop faire une carrière de graphiste. Je trouvais ça, enfin, à tort ou raison, un peu limité, quoi. En fait, j'étais plus, en fait, sur du côté du business, quoi. C'est là qu'il y a les enjeux, c'est là qu'il y a, tu prends les décisions, t'as des responsabilités. Et j'étais plus, j'étais aussi un peu événementiel à ce moment-là. Bon, en fait, j'ai fait un gradué de programme dans le chef, un organisateur d'événements. Ouais, je te fais courte, mais j'ai pas accroché. Et en fait, là, j'ai pas, ouais, bon, bah, j'ai un peu utilisé une pièce qui m'intéressait à la pub, ça, je me suis un peu lassé, l'événementiel, ça passait.
C'est pas ton truc, ouais.
Et je voyais la tech en France qui grandissait. Donc, effectivement, à ce moment-là, en 2014.
Ouais.
Je me disais, mais en fait, c'est la banque qui a des trucs à faire. On verra. Je ne compterai pas, mais je connaissais personne, quoi. Donc, je me suis dit, bah, je vais monter mon propre truc. Donc, apparemment, c'est comme ça que ça se passe.
Et à ta quel âge, à ce moment-là?
De votre tête, je me vends 5 ans.
OK.
25 ans et j'ai trouvé comme ça des développeurs que j'avais rencontrés, avec qui je me suis très vite associé sur la base d'une idée qui paraissait géniale et ça a duré 2 ans où du coup j'ai eu plein d'enseignements, notamment sur l'aspect produit, product design, contraintes techniques et surtout entrepreneuriat. En fait, c'est là que j'ai appris un peu le béaba des premières étapes du fait de monter une startup. En fait, les premiers jalons sont quand même très clairs. Bon, en fait, c'est quand même une espèce de théorème pour les premières étapes d'une boîte. Et ensuite, ça se diversifie. Chaque boîte devient différente, elle a une culture différente, des enjeux différents, des produits différents. Mais les premières étapes, en fait, sont un peu les mêmes. Mais bon, je ne savais pas. J'ai fait toutes les erreurs. Mais ça m'a permis de vraiment comprendre quels étaient un peu les fondamentaux d'une startup. J'ai fait ça pendant 2 ans, que au bout de 2 ans, que je jouais bel et bas, et puis un peu friction d'associés, enfin, les classiques, quoi.
Ouais.
Et donc, du coup, retour à la case, pas zéro, parce que je savais que par contre, product design, mais j'avais toujours rien d'officiel, en fait. Donc là, en fait, je me suis mis en freelance, mais en tant que product designer.
Ce métier commençait à apparaître dans les job desks à l'époque. Ça commençait à être
un vrai job. Ça commençait à devenir quelque chose, et quelque chose un peu d'exclusif. C'était en mode, ça commençait à apparaître, mais c'était rare, quoi.
Ouais.
Et donc, je m'en suis un trailer. En fait, je me suis dit, après, je me donne 2 heures pour faire un profil sur Malt, petite pub, quoi.
Bon,
le portfolio est pour
de Serena.
Exactement. Et je me suis donné 2 heures. J'ai mis même des faux cas, parce qu'en fait, j'avais pas grand chose à part la boîte que j'avais pensée. Mais je savais que visuellement, ils aimaient bien les wireframes, les dessins à la main, tout comme ça. Ça c'était attrayant. Et en fait, ça a fonctionné. J'ai directement eu les propositions. Les premières missions se sont bien passées. Et en fait, j'ai commencé à me faire mon choix, en fait, parmi les clients. Et en fait, j'ai accéléré en product design sur les vrais produits, les vraies problématiques. Je mettais en place tout ce que j'avais appris de moi-même sur ressources en ligne, etc. Puis, puis ça se bouclait avec des problématiques aussi de logo, de branding, parce que la définition n'était pas encore claire sur tout ça. C'était un peu des packages. Rendre ça plus beau, quoi. Il y avait justement par cette pédagogie entre le fonctionnel et l'esthétique, les problématiques utilisateurs. Donc ça fait, ouais, ça fait grandir à vitesse grand V.
Et tu commences à gagner ta vie.
Je
petit détail.
Pour ça, l'argent, c'était cool. Donc, j'avais fait des stages Montpellier, etc. Enfin, je me souviens que c'était un moment où, dans les stats, j'avais passé plus de temps à travailler Montpellier que payer, quoi. Alors, quand j'avais une stat comme ça, c'était un peu terrible. J'ai fait ça un an, doublé dans des formations en Gobelin.
Okay.
Où je me disais, bah, en fait, au début, je m'improvise designer, où, en fait, j'ai jamais fait de formation, quoi.
Il y a peut-être 2-3 bases à récupérer.
Il y a peut-être 2-3 bases à récupérer. Donc, j'ai fait une certification à UX. Enfin, j'ai postulé. Enfin, c'est pas un propos, mais bref, un petit examen d'entrée et tout. Et donc, j'ai fait ça en complément, en fait, d'expérience sur le terrain. Pour me dire, bah ouais, faut peut-être que scolairement, académiquement, il y a peut-être des trucs que je fais mal et tout. Et, en fait, à l'époque, c'était la première formation et que finalement, j'avais pas pris énormément, en fait. Il y avait déjà suffisamment en ligne et dans les meetups, avec centaines de meetups, et puis sur, comment ça s'appelle, Medium.
Ouais.
Un peu disparu, mais il y avait tout sur Medium, quoi, de toute façon. Et puis voilà, en fait, dans cet élan, un jour, il y a un forum allemand, je vais me cueillir, qui a dit, j'ai besoin de quelqu'un sur...
Et tu trouves quoi, sur Malte? Non.
Non, bah en fait, on se connaît depuis l'école, en fait.
D'accord.
Donc on était resté un peu en contact pendant que Brigade commençait à grandir, que ma boîte était, n'a pas commencé, moi, jamais vraiment vécu. mais bref, en tout cas, on se voyait sur le sujet entrepreneuriat et en fait, vu que ça s'était arrêté avec ma boîte, qu'il voyait que j'étais à mon compte et que lui, il est en train de lever aussi, là. Il me disait, j'étais avec quelqu'un sur l'aspect design. Voilà, je suis passé un entretien sur un bout de banc au Loft 50 Partners.
Ouais.
Avec Jean, notamment, une espèce d'entretien, machin, qui, je sais pas, les derniers, au moins les 6 années prochaines de ma vie, ça s'est fait en 2-2. Et donc, j'ai commencé à bosser sur le site web, et en fait, c'était que les profils tech. Arriver en double diamant et ma méthodologie product, problem design. Peut-être l'occasion d'en reparler, mais et là ça a lancé un nouveau chapitre de ma vie un peu plus stable, on va dire.
Super. Et donc là le premier périmètre, donc tu parlais de l'idée qu'ils avaient besoin d'un freelance au début, mais rapidement ça s'est transformé finalement en job. Les premières missions c'était ponctuel sur finalement un peu de cleaning, j'imagine, en fait, mettre tout ça à niveau. Quand t'es rentré chez Brigade full time, c'est quoi ton périmètre?
En fait, je suis arrivé parce que, en fait, ils voulaient déjà quelqu'un full time, en fait. Mais moi, je suis un peu dans une période où j'étais sur 1000 projets à la fois et j'avais tendance à trop dire oui et puis ensuite m'empêtrer dans les projets où, en fait, j'avais pas envie de continuer. Donc là, je voulais pas tomber dans le même piège. Je me dis, je pourrais pas. Ça me chauffe, mais j'ai pas envie de m'obliger tout de suite parce que sinon, on va avoir le malaise. Bref, donc, du coup, on s'est dit, OK, un mois sur le site web.
Ok.
Donc, retour web design des jeunes années, mais c'est très bien pour se familiariser un petit peu avec l'équipe.
Et là, tu bosses sur quoi? Sur la promesse marketing, sur le look and feel. Tu bosses sur tous les enjeux finalement du site web.
Ouais, c'était un peu tout. En fait, j'ai interviewé tout le monde en interne.
Ah cool.
Pour savoir quels étaient leurs enjeux, en fait. C'est quoi vos difficultés, c'est quoi les messages à faire passer, c'est quoi les arguments qui sont convaincants, c'est quoi les questions qui se posent sur lesquelles il faut être rassurant, en plus de l'aspect visuel qu'il fallait upgrader. J'ai demandé à tout le monde comme ça, et puis en fait ensuite sur Sketch à l'époque, c'était mettre tout ça en place, en se disant bah visuellement à quoi, sur quelle charte, dès une charte on commence à partir, c'est quoi la promesse qui était complètement différente à l'époque et qui même ça changeante après parce que on n'était pas encore complètement fixé, c'était tout est mouvant, quoi. Donc là on est un peu sur du staffing last minute, Ouais. Un wording qui me fait hurler aujourd'hui, quoi. Mais c'est un peu staffing, la cellule, simplicité, flexibilité.
Très technique, finalement.
Ouais, très technique. Et aussi parce que à l'époque, quand j'étais très jeune, on se positionnait sur l'urgence, sur du dépannage, sur une app à la minute, quoi. Donc, donc on était positionné là-dessus, et c'est comme ça, ouais, j'ai fait une nouvelle version du site web que j'ai présenté à la boîte. Tout le monde était content qu'effectivement visuellement ça prenne ce qui ressemble à une nouvelle dimension. Mais
et tu faisais un ping-pong en particulier avec Flo là-dessus, ou t'étais libre, avec qui tu bossais
Ouais, j'étais quand même en lien avec beaucoup avec Flo, parce que comme tu l'as dit, il est très à cheval sur l'aspect visuel. J'ai la chance, entre guillemets, d'être aussi exigeant que lui, quoi. Donc, en général, le fond de cul, on est tout le temps un peu aligné sur le niveau d'exigence visuelle. On sait quand ça va pas, quoi. Donc au final, j'étais à la fois, enfin, j'en ai pas gardé un souvenir contraignant, quoi. Je me sentais très, très libre, au contraire. Parce que je pense qu'il y avait pas une confiance déjà un peu mutuelle, parce qu'on se connaissait, et puis parce que dans les faits, ça joue par beaucoup de communication, tout le monde était du sujet, de ce quoi je parlais. J'avais sensibilisé un peu tout le monde sur les points que je voulais mettre en avant, en quoi j'avais besoin d'eux, et puis ils avaient des checks réguliers avec Flo et Jean. Je me suis pas mis en silo pendant un mois, puis ensuite j'ai voulu dans le mois, je sors quelque chose. C'est mon passé.
Donc ça, c'est un premier win, que tout le monde s'approprie, et on est fier finalement de donner l'URL du site en disant qu'il est sympa. Comment on passe finalement de cette feature à des enjeux plus de branding, et comment ton rôle il évolue dans les 24 premiers mois?
Dans les 24 premiers mois, en fait, donc pour replacer le contexte, t'avais une dizaine de profils tech, et t'avais un ou deux profils qui du coup s'improvisaient entre guillemets product manager, un qui venait du monde des sales, un qui venait du monde de la tech, mais il y avait pas encore vraiment de pensée produit, donc c'était sous-jacent, on va dire. C'est un travail de en fait, on peut pas fonctionner en se disant on a une idée, on fait une feature, quoi. Qui est un peu le logiciel de base de tout le monde, en fait, quand on commence dans le produit. Donc c'était j'étais en mode non, en fait il y a un problème business, en face il y a des problèmes utilisateurs, comment est-ce qu'on fait le pont entre les deux, et en fait quand il y a un problème utilisateur, en fait il y a plusieurs solutions possibles. En fait, c'est pas la première idée qui a été la meilleure, c'est parfois plutôt le contraire. Et ensuite, il y a des contraintes techniques qui vont permettre de juger quel niveau d'effort on y met. Donc, il y avait un peu cette pédagogie à mettre en place. À chaque fois qu'en fait, ils bossaient avec moi, ouais, je les remettais dans ce Google Diamond, quoi. C'est cette pédagogie comme truc.
C'est quoi cette méthode? C'est quoi? C'est un token house? C'est toi? C'est quoi?
Ah non, c'est un peu c'est la méthode produit un peu largement acceptée, on va dire. C'est-à-dire, c'est un process, donc t'as deux losanges qui se suivent.
Ouais.
Qui en fait le process de développement d'une fonctionnalité, on va dire.
Ouais.
En fait, pourquoi c'est deux diamants? C'est parce que t'as un diament qui est, en général, on dédie à l'aspect problème, et un autre diament qui est dédié à l'aspect solution. Et en fait, t'as la forme du diament qui s'ouvre, cela, c'est une phase de divergence. Et quand il se referme, c'est une phase de convergence. Et donc, en fait, côté problème, donc premier diament, t'as une phase de divergence sur, en fait, quels sont les problèmes qui ont lieu dans un périmètre défini.
Ouais.
Si je prends un exemple, je veux retravailler avec un talent. J'ai ce problème, je vais pouvoir recontacter, je vais pouvoir retrouver facilement, je vais savoir qui est disponible, etc., etc. Donc, tu listes un peu plein de problèmes, puis ensuite tu converges sur l'aspect problème, c'est-à-dire, en fait, c'est quoi le premier qu'on veut tacler?
Ouais.
Quoi le deuxième qu'on veut tacler? C'est quoi le troisième? Donc, tu clives ta recherche, parce qu'en fait, tes problèmes viennent des termes utilisateurs, etc. Ensuite, t'as une phase de divergence sur la solution. Tu veux dire, est-ce qu'on fait un onglet dédié? Est-ce qu'on fait un modal dédié? Est-ce que on en fait un tableau? On en fait un board avec deux machins? Est-ce que c'est à tel endroit du parcours? Est-ce que c'est plus tard? Mais tu diverges sur toutes les solutions possibles. en général, tu fais des tests, des interviews, des ateliers d'idéation, comme on dit. Ensuite, tu converges vers une solution, celle qui, quand tu l'as prototypée, fonctionne bien et comprend aussi les directs, etc. Et là, en fait, c'est la réponse à ton problème de base. Ça, c'est grosso modo ça, la méthodologie du double diamant, qui est, en fait, c'est une méthode de design thinking, quoi.
Ouais.
Pour, tout simplement. Et donc, c'était ça pour les 24 premiers mois. Il y avait ce logiciel un peu à mettre au cœur de la matrice de pensée du process.
Donc, toi, t'es au milieu de l'équipe, plutôt produit, tech, quoi.
Ouais, ouais, moi, j'étais un designer au milieu d'un développeur, quoi.
Okay.
Et c'était en mode on tape sur l'épaule, Mathieu, on a besoin d'un design pour telle fonctionnalité, quoi. Ah non, mais ça fonctionne pas du tout comme ça. En fait, faut que tu me mettes en contexte, que tu me dises quel problème.
Quand tu les as aidés à grandir, de passer d'un sujet technique fonctionnel à un sujet produit solution, quoi.
Ouais, ça à penser le problème solution.
Ouais.
Plutôt que idée feature, c'était un peu ce logiciel qu'il fallait mettre en place. C'était un peu intangible, mais que j'avais en tête et qu'il fallait mettre en place. En plus, du travail de product design, là, t'as plein de fonctionnalités à mettre en place dans un confort plus ou moins spartiate.
Et ça, en fait, tu le fais sur tous les sujets, à savoir, sur le mobile aussi, sur le web, comment t'interviens sur tous les sujets ou t'es?
Ouais, ouais, j'étais, à l'époque, on était que web.
Ouais.
On n'avait pas d'application mobile.
Ouais.
Et ouais, c'est là que t'as la théorie qui rencontre la pratique. C'est que ce beau process, tu peux pas l'appliquer, sur tous les problèmes qui se présentent à toi.
Ouais.
Donc, en fait, non, tu le fais, non, tu le fais à moitié, non, tu le fais pas du tout. Donc, voilà, tu navigues un peu dans le chaos, qui est normal à ce moment-là, mais bon, forcément, ça te heurte un peu intellectuellement, parce que t'as tout le beau process qui explose à chaque fonctionnalité. T'apprends que c'est le mec du jeu.
Surtout que l'équipe, elle croit beaucoup. C'est que l'équipe tech, produit au sens large. Il y a beaucoup, beaucoup de recrutement. Elle évolue fortement. Quand est-ce que tu arrives à trouver un deuxième Mathieu pour t'épauler dans cette quête du problème-solution? Est-ce que tu y arrives déjà?
Ouais, j'ai eu un premier recrutement product design, c'était CLO, et c'est en l'espace de, je sais pas, quelques semaines, c'était j'ai besoin d'un stagiaire designer. Enfin, c'est Nico, il est encore dans la boîte aujourd'hui. C'était mon premier recrutement. Il a postulé un stagiaire product designer, et la job desk a été changée en CDI product designer. Mais lui, il était ah bah ouais, mais moi ça me part, hein.
Il a raison.
Il a bien raison. Et puis ouais, ensuite il a commencé en product design, puis il a fait product design, product management, product engineer. Maintenant il est full côté tech.
Ok.
Donc mais t'es bien faite. Et ouais, ça a permis de me dédoubler là-dessus. Puis c'est aussi à ce moment-là, en fait, que j'ai décidé au bout d'un an, je suis passé head of product. Donc là, en fait, on dézoomait encore plus autour de ce process. Enfin, je n'ai pas fait tout seul. C'était même six gens qui, évidemment, ont aidé tout ça. Mais ensuite, il y avait tout mon spare en tant que head of product. J'ai fait un an en product design, puis ensuite head of product pendant 2 ans.
Ouais, c'est intéressant parce qu'en fait, effectivement, Jean, à ce moment-là, il a deux casquettes, côté CTO, côté CPO. Comment il bosse avec toi sur la partie product? C'est, il vous fait du peering ou vous êtes au même niveau, ou c'est plutôt, il a des idées, qu'il souhaite mettre en œuvre et il te donne les grandes lignes et puis c'est à toi de mettre tout ça en musique?
Ouais, il y avait, ça remonte un peu. On était très en binôme. C'est vrai que lui, il y a un aspect management de l'équipe tech.
Ouais.
En fait, qui prenait beaucoup de temps. Et côté produit, il avait quand même une vision déjà assez claire, qu'il fallait mettre en musique. Et moi, j'en garde le souvenir d'un travail très en binôme parce que, finalement, moi, j'allais absorber aussi toute la charge de travail de recruter, de mettre un process, de documenter, de de découper genre ce double diamant en fait
ouais.
En scope d'intervention en fonction de
en méthode quoi en méthode
exactement en méthode qui pense à un truc très important c'est d'avoir des scopes très très clairs ça se marche dessus en fait c'est là que ça crée de la friction donc comment est-ce qu'on découpe bien les scopes de chacun etc donc, et ça ça prend un temps démentiel c'est pour ça qu'après je fais le head of product et le product design c'est vraiment ce qui prend un trop de travail parce que t'as ça plus le delivery la roadmap la priorisation de tout ça plus de la méthodologie que tu mets en place la méthodologie de priorisation c'était un boulot énorme en fait avec Jean ça on veut s'en binôme pour quoi parce que j'ai une équipe tech du côté produit vous m'aidez aussi à gérer ça à imprimer une vision à trancher sur des priorisations quand tu dois arbitrer entre faire une application mobile pour les utilisateurs ou mettre en place un CRM en interne quand t'es vraiment en train de prioriser les choux et les carottes quoi donc ça a rien à voir et en fait enfin, vraiment, c'est très compliqué. Enfin, le produit, c'est priorisé. C'est vraiment ouais. le cœur du métier, c'est priorisé. Et c'est compliqué, quoi, quand t'as des choix très hétérogènes, des problématiques très hétérogènes.
Même quand t'as des ressources, finalement. C'est pas qu'une histoire de...
Ouais, c'est presque pire quand t'as des ouais. ressources. Ouais. Parce que tu peux en faire plus.
Ouais.
Que t'es moins incentivé pour prendre des décisions. Tandis que quand t'as pas le choix, ça t'oblige à être radical. Donc, limite, c'est plus intéressant pour ça. Mais, on fonctionnait, c'est comme ça. Et puis, aussi, ouais, effectivement, le dernier point, c'est quand il fallait vraiment, des prises d'initiative. Parce qu'en fait, moi, j'étais très, né dans le guidon. Je commençais à plus avoir un recul, etc. Et c'est la prise d'initiative, c'est de dire, bon, en fait, ça, c'est méga important. Typiquement, je mets une fonctionnalité comme ce qu'on appelle le multi-account.
Ouais.
Donc c'est ne pas c'était un compte et il y a un restaurant, on va dire. Mais ensuite, si on veut adresser des grands comptes, ils avaient besoin de ça. C'est un plafond de verre pour nous, un plafond de verre pour la croissance. Ou en fait, il faut ce genre de choses, qu'il y a un gros chantier. Alors, on a déjà moins de trucs à faire. Et en fait, il faut qu'il y ait vraiment quelqu'un, un co-founder, Jean, qui dise, maintenant, on arrête tout ça. Et en fait, c'est passé ça, cette initiative. Et donc, ça, c'est, ouais, celle-ci, c'est genre de décision qui font la différence.
Et donc là, on se rapproche du premier confinement, dangereusement. Je m'en rappelle d'une discussion ou deux de board où il y a des sujets de lobbying à ce moment-là dans lequel il y a Brigade qui souhaite changer de braquet en termes de, notamment de perception vis-à-vis du grand public, vis-à-vis des grands groupes, des grands comptes.
Ouais.
Il y a toute une réflexion autour de la marque Brigade, sachant qu'en plus, après, vous avez ouvert une nouvelle verticale dans la santé, donc même le nom a été remis en cause et finalement, est aujourd'hui, toujours le même.
Ouais.
Comment tu as bossé sur ce chantier je sais pas comment on l'appelle, branding au sens large, dans lequel en fait il y a eu un énorme taf de repositionnement qui a accouché il n'y a pas si longtemps que ça finalement.
Ouais, alors dans la temporalité, j'ai fait les 2 ans de Head of Product, 1 an de Head of Product Design, et ça là on a pris plein de cœur du Covid.
Là c'est ok.
Donc en fait là j'ai repris presque une casquette principal product designer quoi d'une certaine manière parce que j'ai le grand rôle à manager en fait
okay.
Malheureusement
t'étais le doueur quoi c'est toi qui
ouais je suis passé en mode doueur là je vais faire un clear genre en fait je fais une espèce de rewinding genre 0.5 quoi pour remettre au propre visuellement tout
ouais
faut être beaucoup perdu enfin notre ouais enfin c'est un autre sujet mais ça qu'on avait mis en place un peu de début de cohérence d'interface, de design système, volé en éclat avec la croissance, parce que tu commences à avoir plusieurs designers, plusieurs produits, et chacun commence à faire ses trucs. Et t'as pas le temps de synchroniser un peu tout le monde, donc ça avait un peu volé en éclat. Donc le premier truc, c'était réimporter la cohérence dans les interfaces, dans le branding, dans les messages, et qu'on redevienne reconnaissable.
Parce que,
bon, ça devenait un arc-en-ciel l'interface produit. Arc-en-ciel, c'est pas une bonne métaphore, c'est joli en arc-en-ciel, mais c'était pas très joli en produit, quoi. Et donc ouais, en fait, j'ai fait le product design là en plein cœur du Covid. J'ai eu des questionnements personnels, on pourrait y revenir, c'est un peu drôle.
Ouais.
En fait, c'est là que je pense à dire, bon, il y a un timing qui s'est fait, j'ai pas tous les éléments, mais on a proposé de passer donc VP Brand et commencer par les branding.
Oui, parce qu'à ce moment-là, toi, ça fait 3-4 ans que tu es chez Wingard.
Ça fait ouais, bien 4 ans.
4 ans, t'as des questionnements perso sur est-ce que tu restes, est-ce que tu pars, ou ça vient plus tard, c'est à quel moment là où tu
Ouais, bah, des questionnements, j'en ai eu plusieurs fois, et je pense que c'est normal parce que, en fait, t'es très, enfin, t'es pas founder, moi, j'ai connu par toute échelle, toute proportion gardée, mais, je voyais un peu les hauts et les bas, tu sais, quand t'es les founders, je pense que c'était un frappe pour flouer les gens, mais en fait, quand t'es early employee, en fait, t'es pas non plus très loin de cette machine à laver, donc, en
Ouais.
fait, t'es très commit quoi normalement du fait parfois c'est bien parfois pas bien donc t'as des hauts des bas donc t'as des phases de surengagement puis des phases du coup il y a des retours de bâton mais tu t'es en mode là je suis en surchauffe j'ai envie de changer quoi donc j'avais déjà eu bon, une ou deux fois avant un sérieux questionnement et là en fait quoi au cœur du Covid moi je sais pas des sollicitations, on n'en voyait pas trop le bout, donc j'étais redevenu joueur, je voyais pas trop le bout de la crise.
Est-ce que tu as flippé pour le business?
Ouais, bah, moins 90% d'activité,
Oui.
tout le monde flippe.
Oui, bien sûr, c'est sûr.
Mais non, je sais pas, donc, moi j'ai un truc, bon, c'est très facile en rétrospective de dire ça, mais je sais pas, j'ai un peu tu vois, il y a vraiment cette culture un peu de résilience chez Brigade où j'ai toujours, bon, c'est très cliché, mais je suis très très fan de Airbnb, son histoire, hésite à comme un gros fan, quoi, mais, où il y avait Paul Graham qui leur disait que c'est, eux, ils pouvaient pas mourir parce que c'était des cafards, quoi. Et je sais pas, j'ai un peu cette sensation que je disais, on a un peu ce côté cafard, quoi, genre, on change, genre, on y tient à ce qu'on fait, quoi, on se bat, on se serre les coudes, je me disais, bah, oui, peut-être que, en fait, je me disais, oui, peut-être que le business peut s'arrêter, mais quelque part, ce sera pas de notre fait, ce sera forcément exogène parce que, on est quand même à donf, quoi, et on trouve des moyens, et puis on se parle, et puis, donc je sais pas,
Donc t'as pas eu peur de ça. Donc c'était plutôt
non, c'était vraiment personne de mon côté,
perso et puis ton
je me disais, en
côté.
fait, j'aimerais que ce soit un tunnel de 4 ans, en fait, quoi, donc, est-ce que je veux rester 4 ans, finalement peut-être à stagner, etc. Donc, je suis ambitieux et que je vais accomplir un show et que j'adore grandir, découvrir des trucs, que je sois un aperçu, quoi.
Oui, et puis l'écosystème a grandi entre-temps, il y a des boîtes qui ont performé, donc que tu reçois enfin, recevoir des sollicitations à ce moment-là, c'est totalement naturel.
Ouais.
Et donc forcément on est un peu ému, on est en fait content d'être dragué, flatté, c'est normal, on est tous humains. Et deux, c'est aussi ça fait partie du jeu quoi. Enfin.
Ouais, clairement, clairement. Oui, c'est ça qui te dit, tu dédramatises un peu le truc. Et donc, et au final, non, ben, pour aller au bout de l'histoire, oui, j'ai accepté une offre.
Ouais. Chez Tocto. Pour ne pas le noter. Ouais, mais je connais l'histoire. Enfin, là,
J'ai
j'ai.
une histoire.
Ouais.
C'est pas ça non, mais ouais, enfin, j'ai accepté leur offre, j'ai démissionné de chez Brigade, le courrier et tout, le pot de départ était programmé,
Non.
la cagnotte était
OK.
abondée,
OK.
et en fait, je suis genre un mois avant, quelque chose comme ça, dans l'agenda, un point, Mathieu, Flo, Jean,
C'est quoi ça, Knar?
c'est quoi ce traquenard? Pas d'objet, pas de description. Enfin, alors, j'ai des voix à venir gros comme une maison, mais qui nous ont fait un coup fourré. Voilà, les manières qui s'imposaient. Désolé de te mettre dans cette situation, mais voilà, on a pensé à un truc. Ah, non. Et, bah, non, bah, je suis déjà engagé, j'ai déjà signé, je veux qu'on prenne quoi. Ouais, mais pas de souci. Mais bon, on disait, fallait qu'on t'en parle, quoi. Et puis ils m'ont parlé du coup d'un sujet de rebranding donc qui est pas tout est pas mon cœur de métier qui j'ai touché en agence que j'ai très clair freelance etc mais qui est pas le cœur de mon sujet depuis quelques années quoi et puis bon Oui, voilà, mais on comprend que qu'ils disent non, que c'est pas, enfin bref, ils sont forts. Et donc j'ai mijoté pendant un mois, j'ai un peu réfléchi, j'ai posé les pour et les contre, ouais, c'était horrible.
Et le job chez Docteur, c'était quoi?
Le job chez Doctolib, c'était lead product designer sur le front d'un nouveau produit.
D'accord.
Donc vraiment très bien. Je dis, ma mère est médecin, donc ça parlait. Elle utilise Doctolib, donc ça parlait sur pas mal de niveaux aussi, quoi. C'était vraiment pas à la légère que j'ai pris cette décision.
C'était un bon move dans l'absolu.
Ouais, c'est pas à tel côté un peu. Moi, c'est une belle ligne sur le CV, quand même. Tu apprends un peu des réflexes, comme ça, là. Non, story short, je me suis dit, allez, je fais le choix de l'inconnu et de, parce que je me disais, bon, au final, c'est une très belle ligne, très belle boîte, très beau job et tout. Mais quelque part, je sais à quoi m'attendre.
Ouais.
Là, je savais pas du tout quoi m'attendre, et je me suis dit, finalement, c'est pour ça que je vis, quoi. Finalement, c'est pour apprendre des choses, vivre des aventures, et avoir des anecdotes à raconter, quoi. Pas ce qu'on fait d'ailleurs.
Ouais, exactement. Ouais.
Tellement méta. Et du coup, j'ai dit à Doctolib que finalement, je restais chez Brigade, le jour de mon point de départ chez Brigade. Et donc,
D'accord, t'as fêté ton arrivée chez Brigade, en fait,
et du
quelque
coup,
part.
mon pot de départ, en fait, le jour de mon pot de départ, on a annoncé que je restais.
C'est énorme.
Et ouais, c'est ça.
Mais c'était une bonne teuf, ça, plutôt.
Ouais, du coup, c'était le 29. Bon, alors, il y avait un pot de départ d'autres personnes, donc du coup, ça n'a pas annulé
D'accord.
les trucs. Mais ça fait marrer tout le monde. Ça a l'air, d'accord, moi, tu ne partiras jamais. Hein. Et ouais, non, du coup, ouais, Docto était, enfin, la dernière âge que je savais, si jamais d'écoute ça, était très, très fair play, m'enlever la forme un peu cavalière, quoi, une conscience, quoi, mais bon, ça m'a beaucoup rassuré, j'ai dit, de toute façon, t'as recruté 20 designers, donc tu vas prendre plus en moins, j'étais mort, ok, t'as l'air,
J'étais numéro 14, c'est pas grave.
voilà.
Ok. Et donc cette nouvelle mission, elle finalement, c'est quoi les guidelines et c'est quoi, t'as un budget, tu dois bosser avec du people en interne, t'en as ta face avec Flo, c'est quoi ton périmètre?
Alors, c'était un brief à la Flo, mais je maîtrise le Flo. C'était en gros, genre, refais-moi une marque qui claque, quoi.
Ok, à dans 2 mois.
Et non, le plus tôt possible, quoi.
À dans 2 jours, ok.
Non, j'exagère un petit peu, mais c'était parce qu'effectivement, je creusais que mes problématiques business,
Ouais.
les besoins qu'il y avait derrière, etc. Mais c'était ce que tu as commencé à dire. Et en fait, là, on vise une levée, on vise d'avoir une ambition désormais européenne. Désormais, on est face à de nouveaux acteurs, on est face à une ambition qui va nous exposer. Donc, on a besoin d'être irréprochable. On a besoin d'être irréprochable visuellement, ce qu'on dit. On a besoin d'incarner un nouveau statut. C'est vraiment tout ça qu'il faut réussir à véhiculer. Donc, c'est comme ça qu'il m'a présenté. Et ensuite, c'est en mode, on a une task force à trois, Flo, Jean, moi. Il y a un budget qui m'est alloué, qui est plutôt un plafond, un ordre d'idée, quoi, qu'on dire en fait.
Sur des ressources externes?
Quand?
Sur des ressources externes, c'est ça?
Ouais, c'est ça. C'est vrai que je questionnais un peu le fait de passer par une agence, ce qu'on a fait finalement, plutôt me prendre. Enfin, bosser avec des freelances à droite à gauche qui ont chacun des expertises et tout, mais vu que j'avais jamais fait ça, j'étais plus à l'aise avec l'idée, enfin avec le processus un peu traditionnel de passer par une agence qui t'accompagne dans le process. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, j'avais un peu carte blanche, quoi, tant que en fait, je maintenais au courant, enfin pas au courant, ils étaient dans la diff, ils étaient actifs, c'était vraiment acteur du process. De l'aspect recherche d'agence, audit d'agence qui nous pitch leur vision des choses, jusqu'à la traduction concrète des premières actions, jusqu'à l'implémentation. Donc, je sais pas sur quelle partie tu vas en focus un peu, mais ça doit être 9 mois.
Ah oui, quand même.
Enfin, 9 mois du moment où j'ai commencé à chercher une agence jusqu'au moment où on appuyait sur le bouton et c'était live, quoi.
D'accord.
Je sais pas si c'est ou pas. Moi, en tout cas, j'étais vraiment.
C'est un gros projet, quoi.
Ouais, mais j'étais tout seul à faire ça, du coup, opérationnellement et donc il y a vraiment toujours là avec l'agence hein, en vrai. Bon, c'était l'agence W avec qui on a fait pitcher. J'ai fait pitcher à 10 agences. Il y a deux qui sont vraiment sortis du lot comme étant vraiment des agences de branding, pas seulement des agences très cosmétiques.
Ouais.
Mais là, c'était vraiment on va faire quelque chose de visuellement très attrayant. C'était un peu la finalité du truc. Mais comme je l'ai dit, un peu de mes expériences précédentes, qui a fait la part des choses entre ce qui est le vernis et ce qui est vraiment à l'impact. Nous, on avait vraiment cette approche de la marque de se dire, en fait, pour cocher toutes les problématiques dont je t'ai parlé juste avant, c'était de dire, en fait, faut, moi, j'ai un peu cette conviction de dire, faut vraiment qu'on ait un continuum, entre guillemets, ultra aligné entre ce qu'on est, ce en quoi on croit, nos convictions, nos croyances, jusqu'à comment est-ce qu'on l'exprime sur l'aspect éditorial et sur l'aspect visuel. Mais en fait, tout ça, c'est qu'une conséquence de ce que t'es et de ce que tu veux, quoi, en fait, de ta boîte. Donc, on était vraiment aligné là-dessus, quoi, de dire, en fait, on veut pas que ce soit un peu de pinceau, quoi. On veut vraiment remettre à plat plein de choses. Enfin, pas les remettre à plat, mais les formaliser plutôt, parce qu'elles sont là, mais elles sont un peu intangibles. C'est-à-dire notre conviction, nos valeurs, je sais pas. Donc, on est vraiment parti de, ouais, d'assez profond, quoi, avec cette agence. On a vu, bah, nous, on a déjà des valeurs, on les croit.
C'est... Jusqu'à la raison d'être de la boîte, ou parce que vous étiez déjà entreprise à mission à ce moment-là, ou, ouais,
ouais. Ouais, ça, on leur a dit, on ne touche pas, mais à ce noyau, ça fait déjà des années, en fait, qu'on a pas mal bossé dessus. Les valeurs, on avait fait plusieurs off-sites dédiés.
Ouais.
On était vraiment en mode, on n'y touche pas. Ça, on sait que ça capture la culture de notre boîte. La raison d'être, on l'a aussi.
Ouais.
Donc ça, vous n'y touchez pas non plus. Mais ensuite, tout le reste qui va être nécessaire, c'est d'être une plateforme de marque.
Ouais.
Pourquoi on existe, qui on adresse, quelle est notre vision du monde. Ça, en revanche, on l'a pas, on l'a pas formalisé, on a besoin d'aide là-dessus. La tagline, on en a bien improvisé de notre côté, mais c'est pas forcément exactement ce qu'on veut, quoi. Donc c'était de nous accompagner sur ces fondamentaux, quoi, de la marque, et ensuite effectivement la déclinaison éditoriale et visuelle qui allait avec. Et elles ont fait vraiment un super travail de aussi de bah tu effectivement tu l'as évoqué, c'est genre le mot clé, enfin si priorisation est le mot clé dans produit, positionnement c'est le mot clé pour la brand, quoi. C'est
ouais.
On se positionne, et se positionner, c'est à dire quoi, c'est vraiment c'est quel segment mental t'occupe dans l'esprit des gens, quoi. Et nous, on a cette problématique qu'il y a déjà des segments qui existent, que sont l'intérêt, l'ubérisation. En fait, on est ni l'un ni l'autre, mais en fait, faut qu'on ait notre segment à nous. Et c'est toute l'ambition de la brand, de vos positionnements. C'est comment est-ce qu'on crée ce segment, comment est-ce qu'on est identifié, comment est-ce qu'on n'est pas confondu, comment est-ce qu'on se différencie. Et ça commence par être au clair sur ce que t'es, sur ce que en quoi tu crois, comment tu l'exprimes. Ouais. Donc, c'était les premiers jalons de ce travail. Et en plus de la plateforme de marque, la tagline, il y a même aussi cet aspect positionnement, c'est-à-dire qui est un peu le cœur de ce sur quoi Brigade se positionne. Donc aujourd'hui, c'est la passion plutôt que justement, c'est ce que je dis, tu vois, dans l'onboarding nouveau, c'est qu'avant, quand on revient au site web que j'ai fait le premier mois, on avait mis le positionnement, on était positionné sur la flexibilité, sur la simplicité, segments sur lesquels tous les autres services se positionnaient aussi, quoi. Toutes les taglines sur tous les sites, peut-être là par là, il devrait commencer d'ailleurs, mais c'était flexibilité, simplicité, etc., avec t'es pas différenciant, quoi, quand tu fais ça. Donc, ça a été vraiment le cœur du réacteur pour le branding. Et ensuite, on a, je continue un peu le
ouais, bien sûr. Ouais.
Donc, ils ont dit, il y a la liberté qui en met beaucoup dans les témoignages. Vraiment, c'était brigade, liberté, etc. Sauf que c'était pas une notion très facile à exploiter, un peu galvaudée. Donc, d'un point de vue purement business, en fait, c'était peut-être pas ce qui me porterait suffisamment. Donc on l'a écarté, il y a aussi un positionnement sur l'attention portée, mais c'était peut-être un petit peu trop conceptuel pour nous. On s'est pas positionné dessus, on est resté vraiment sur cet aspect passion, qui est un peu, chaque fois, c'est un peu les cas emblématiques qu'on sert, quoi. C'est vraiment ces témoignages d'utilisateurs, talents comme business, qui en fait se disent passionnés de leur métier, que c'est vraiment une vocation, mais que malheureusement les conditions actuelles dans l'industrie les font fuir de, enfin les font fuir de leur travail et en fait arrêter de bosser dans ce qui les passionne, quoi. Ce qui est beau, parce que moi je suis passionné justement de design. Et en fait, je peux pas avoir la condition, je suis obligé de faire autre chose. Enfin, c'est fou, vu le nombre d'années que j'ai mis à tâtonner jusqu'à trouver ce qui me passionnait, moi, perso. Et me dire, en fait, designer, c'est pas possible, quoi, c'est trop dur, donc faut que tu trouves un autre truc. C'est dingue, quoi, quand on est bon, tu vois. Et donc, on s'est dit, vraiment, c'est vraiment ce qu'on adresse, c'est ce qui les relie tous, en fait.
Ouais.
Donc, on est parti là-dessus, et ensuite, on a commencé à décliner sur la plateforme de marque, on permet aux individus de poursuivre leur passion de manière soutenable, vertueuse.
C'est comment tu déclines ce positionnement
en
bénéfice, quoi.
Ouais, en raison d'exister.
Ouais.
On existe pour adresser ça, en vision du monde, c'est-à-dire, en fait, on a cette conviction, évident, mais en fait, c'est-à-dire, en fait, les gens font leur meilleur travail et sont épanouis lorsqu'ils peuvent vivre de leur passion, en fait. Donc, c'est une vision du monde du travail,
ouais.
Qui, en fait, est un peu un remords, finalement, de certains modèles de travail, qui t'adressent. Évidemment, en fait, on adresse et ceux qui sont pas bullshit jobs, en fait, vous retrouvez les questions de l'heure. Et voilà, donc ça fait partie de ta plateforme de marque, et ensuite une tagline qui capture de manière hyper synthétique cet ADN, cette croyance, donc la passion is the thrive, qui capture le fait que t'es un endroit qui est réuni tout le monde. Ouais, en passion, l'aspect passion évidemment, mais pluriel, qui capture la diversité des passions, reconnaître les individualités. Des thrive, moi j'aime beaucoup, parce que c'est vraiment l'aspect durable, je parlais de l'aspect vertueux. C'est le faire, mais c'est pouvoir vivre de sa passion, mais de manière durable, équitable, sécurisée, etc. Plein d'aspects qu'on tacle, en fait, chez le Brigad, dans le produit, dans l'expérience qu'on veut construire.
C'est vrai que c'est un chantier qui est quand même, qui est souvent sous-estimé de l'extérieur. On a l'impression, on réduit ça à du design ou à du look and feel.
Ouais.
Je pense que ces enjeux de plateforme de marque, qui est souvent finalement repris par des boîtes beaucoup plus matures, beaucoup plus grosses, qui dépensent parfois des centaines de milliers d'euros, pour pas dire des millions, à se réinventer, se repositionner, dans lequel en fait on change de quelques centimètres le positionnement d'une marque dans l'esprit des gens. Et ben c'est des choses qui sont finalement dans l'écosystème startup, qui sont très dimensionnantes, qui sont souvent mal faites. Je te le dis parce qu'en fait, malheureusement, j'ai aussi accompagné des boîtes qui ont essayé de le faire en pensant le truc peut-être trop court terme. Et donc, cette vision à 360 avec cette plateforme de marque, avec quand Flo, à l'époque, dans le board, nous dit « je vais bosser là-dessus », moi, je me suis dit « ça va être un upgrade de ce qu'ils ont fait, quoi ». Et j'ai été j'étais vraiment épaté. Donc je te le dis en direct comme ça, vraiment j'ai été épaté par je me dis waouh, c'est pas un upgrade, quoi, c'est on change vraiment de dimension, et tout était consistant. Moi, ce qui m'a plu, c'est que c'était vraiment tu vois, jusqu'aux locaux, où quand t'arrives maintenant rue du Sentier, le logo, et tu vois, jusqu'à la porte d'entrée, en fait, tu te dis waouh, c'est consistant, quoi, c'est cohérent, consistant.
Là, je suis content que tu le remarques, c'est un truc auquel on a été hyper attentif et sur lequel j'ai insisté auprès de l'agence. C'était dire, en fait, faut qu'on, j'en parle comme si c'est jamais gagné, parce que la marque vit, etc. Donc faut qu'on le maintienne dans le temps, mais c'était effectivement comment est-ce qu'on raconte une histoire cohérente, de bout en bout, quoi.
Ouais.
Parce que tu peux trop facilement, en fait, quand tu arrives dans la partie visuelle, par exemple, partir dans des trucs, en fait, tu dis, mais en fait, comment est-ce qu'on l'explique qu'on ait fait ça? En fait, en quoi ça se relie avec ce qu'on a fait, quoi. Et en fait, c'était de dire, faut à chaque fois, faut qu'on puisse l'expliquer, faut que ça puisse se relier, que ça ait du sens, que ce soit cohérent. Typiquement, on a cette couleur, tu vois, genre le rouge passion,
Ouais.
qui est avec je sais pas comment le traduire, mais sprinkle pink, c'est un peu ce dégradé là. En fait, on est parti sur cette couleur, parce qu'en fait, c'était la couleur de la passion, tu vois. En fait, et on se disait, je fais un peu cette petite phrase qu'on a essayé évidemment toutes les couleurs. On se disait, bah en fait, brillante, c'est une couleur chaude, quoi. Ça peut pas être un bleu technologique,
Non.
etc. On disait, brillante, c'est une couleur chaude, quoi. Donc ça, c'était le lien, ce rouge passion. On a un peu ce pattern aussi, tu vois, cette espèce de cercle qu'on voit un peu partout. C'est un pattern qu'on appelle le pulse, en interne. En fait, c'est l'idée de rayonnement de la passion, en fait. À chaque fois, bon, justement, on fait gaffe à figurer, mais en fait, c'est à chaque fois un rayonnement. Dit comme ça, c'est un peu intellectuel, on va dire, bon, tiens, bon, que les cheveux en quatre, mais en fait, à chaque fois, c'est un rayonnement qui est, à chaque fois, est autour du cœur de la personne qui est prise en photo, quoi. Parce que, en fait, c'est l'histoire cohérente qu'on veut raconter, de bout en bout, et pas se dire, en fait, on a une plateforme de marque. Et par contre, pour l'aspect visuel, ça a refait plaisir, c'est comme ci, comme ça. Non, en fait, ça en veut de tout expliquer de bout en bout. Je comprends qu'on puisse l'art, c'est un peu une petite coquetterie intellectuelle de faire ça, mais je sais, moi, je trouve ça a son importance, et c'est aussi ça qui fait que se ressentir cohérent de
Ouais, et puis, enfin, je pense que de l'extérieur, on n'a pas ce niveau de détail. C'est quand tu vois, on se dit pas qu'on se dit pas qu'ils ont pensé à tout ça et on n'a pas le voice-over de chaque élément. Par contre, tout est consistant, clair, tu vois, pixel perfect, tu vois, ça bouge pas et on se dit, tu vois, ça pourrait être une boîte dans laquelle il y a 4 000 personnes ou 10 000 ou une boîte worldwide, quoi, tu vois, ça pourrait être la même chose, tu pourrais dire, ouais, ça marche, en fait, tu vois. Tu dis pas c'est une startup. Et c'est ça, moi, qui m'a plu dans le changement de paradigme, c'est je me suis dit, ah ouais, ok, on va vraiment jouer ce play pan-européen, parce qu'en fait, là, on a la partie look and feel, on y est, quoi. Juste pour avancer, peut-être sur les défis futurs, un peu les enjeux, là, t'es le garde-fou de plein d'enjeux, notamment la partie éditoriale. C'est quoi tes enjeux, toi, à titre perso dans la boîte? La boîte va continuer à grandir, potentiellement il va y avoir du M&A, des acquisitions. C'est quoi les quelques sujets dans lesquels toi tu vas être t'es amené ou tu vas être amené à bosser?
C'est une question que tout le monde s'amuse à me demander, mais maintenant que le rebranding est fait, tu vas faire quoi?
Faut le maintenir
Bon,
déjà.
je me suis posé aussi la question, je me suis dit, bah, non, mais en vrai, ça s'anime et ça continue de se déployer. Une fois que tu l'as déployé opérationnellement sur le produit, t'as ta documentation, etc., c'est continuer de le faire vivre. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent, donc, qui connaissent pas l'histoire, et qui ont peut-être pas le niveau d'engagement dans la marque que tu as réussi à insuffler à ce moment-là. Donc, dans les changes, il y a plusieurs. Moi, j'en ai identifié trois qui vont nous guider pour, je pense, les 2 prochaines années. Il y a un enjeu de... Ah non, je commençais plus évident, plus complexe. Il y a un enjeu de awareness. On peut croire que bon, c'est comment est-ce qu'on est plus collé auprès de nos potentiels utilisateurs. Et identifier comme solution un problème bien défini. Mais aussi, il y a un deuxième niveau de awareness, c'est un peu comment est-ce qu'on est identifié avec la cause qu'on défend, les sujets qu'on porte, en quoi on est ambassadeur ou porte-parole de ce qu'on appelle évoluer la crise des vocations. Tout, en fait, c'est notamment pas les talents, mais aussi les business, avec qui est sous les conditions de l'industrie, de manque de reconnaissance, de manque de moyens, de burn-out, de choses comme ça. Et en fait, se dire au-delà d'être connu pour être connu pour notre activité, comment est-ce qu'on peut aussi porter cette cause. Donc, il y a cet aspect awareness déjà qui est important. Il y a l'aspect qui s'appelle trust, c'est-à-dire vu que, comme je te disais, on se positionne sur un segment qui n'existe pas vraiment, quoi, qu'on veut créer, se différencier et être identifié à ça, alors, en fait, ça pose plein de questions, quoi. Ça pose plein de questions des deux côtés de la plateforme, au-delà de la plateforme. On tire, est-ce que, il y a plein qui ne sont pas très contents de ce modèle. Il y a des questions sur l'aspect légal, sur l'aspect précarisation, sur l'aspect taxe, sur l'aspect... Il y a plein de questions, en fait, c'est normal. Et comment est-ce qu'on est suffisamment crédible pour notre positionnement pour qu'on nous fasse confiance, en fait, hein, c'est un pied, quoi. Pour que les talents nous fassent confiance parce qu'ils sont rassurés sur l'aspect... j'ai un accident, en termes de retraite, ça se passe comment, en termes de, est-ce que c'est durable, est-ce que c'est légal, est-ce que c'est machin, côté établissement aussi.
Ouais.
Sur la sphère. En bref, il y a de la confiance à construire. Donc, c'est très transverse. C'est pas juste de la communication, au final. C'est de construire la confiance dans l'expérience produit, c'est de construire la confiance dans le discours des sales, dans le discours marketing. Donc, on a, voilà, c'est un deuxième enjeu. Et il y a un troisième enjeu. C'est le cœur. Enfin, c'est le plus compliqué. C'est en fait, on y revient. C'est le positionnement. C'est-à-dire que en fait, là, quelque part, le rewinding, c'était déjà se mettre en ordre de bataille, se donner les outils pour se synchroniser, pour agir en tant que une seule entité, une seule entreprise. En fait, chaque employé a les mêmes outils pour son wording, ses éléments de langage, ses arguments dans les chartes graphiques, ses visuels. Pour pouvoir faire partie, enfin être brigade aux yeux de n'importe qui de ses interlocuteurs, c'était déjà avoir cette boîte à outils, aligner tout le monde. Je prends toujours ces slides avec une centaine de petites flèches qui vont un peu dans tous les sens. Je montre, je sais pas, une fois sur deux en présentation. Mais en fait, c'était un peu ça qu'on était avant le rewinding. Là, maintenant, en fait, c'est toutes ces petites flèches sont alignées les unes avec les autres pour faire une seule grande flèche. Et en fait, c'est ça qui donne de l'impact. Elon Musk qui a fait un truc là-dessus, « People are vectors », c'est exactement ça, quoi. Franchement, là, on s'est donné les moyens pour, en fait, que les vecteurs soient alignés dans la même direction pour un maximum d'impact. Et maintenant, c'est cette grosse flèche, ce gros vecteur, vers quoi on envoie. Et donc, c'est cet enjeu du positionnement, de dire, OK, maintenant qu'on est équipé, comment est-ce qu'on fait savoir à n'importe qui de nos utilisateurs. Enfin, n'importe quel utilisateur est capable de pitcher Brigade impeccablement, de comprendre comment elle fonctionne, quelles sont les opportunités, les responsabilités aussi qu'ils prennent en les utilisant, faire comprendre aux utilisateurs, faire comprendre hors des utilisateurs, l'écosystème tech, les investisseurs, la presse, les lobbies, les affaires publiques, le gouvernement. Et donc, on a cet enjeu de positionnement parce que, en fait, on a la majorité de nos utilisateurs qui sont pas à l'aise pour définir Brigade, en fait.
Ouais.
C'est fou, quoi. Donc, il y a une grosse bataille de ce côté-là. Sur l'aspect positionnement, c'est l'enjeu. Et comme je disais, c'est pas que de la communication. C'est un ensemble. Ça se traduit dans le produit, dans les pitchs, dans le monde marketing, etc. Et pour ça, c'est ce qui rend le travail de la vraie hyper conversation chez Brigade.
Ouais, et puis t'as la chance d'avoir touché à tellement de choses que t'es legit, tu vois, on peut te donner, en fait, c'est parce que c'est un énorme niveau de responsabilité, finalement, ce que t'évoques. Là, tu vois, c'est le côté un peu, c'est vrai, parce que c'est un côté, tu pourrais bien sûr le confier à un fondateur, mais c'est tellement quelque chose qui connecte tous les points de l'entreprise vis-à-vis de l'extérieur, qu'en fait, tu vois, continuer à nourrir et continuer à faire grandir ce sujet, c'est un sujet qui, je trouve, est fait partie, en fait, des enjeux d'une boîte quand elle scale. C'est vraiment passer à ce niveau de dimension, de consistance, de continuer à garder ce cap. C'est vraiment, c'est pas simple du tout.
Ah non, clairement, c'est pour ça que je prenais des pincettes pour les gens. On n'a pas craqué le truc. Hein,
oui, c'est sûr.
Bien de commencer, mais. Le change, c'est ça, c'est pas en vol avec la croissance. Quoi.
Super. Bon, un grand merci Mathieu pour ton temps. C'était une très belle rencontre. J'ai appris plein de trucs. Tu m'inviteras à ton prochain pot d'arrivée. et puis, je te dis plein de réussite pour continuer cette mission importante et à très vite.
Ben, merci beaucoup. Merci de ton temps.
Un grand merci pour votre écoute. J'espère comme moi que vous avez passé un agréable moment avec ce talent. N'hésitez pas à partager cet épisode de Startup Mafia autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ou une nouvelle saison. Ciao, ciao.